France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série Art et pouvoir, les liaisons dangereuses, aujourd'hui, l'art pour l'art, autrement plus complexe qu'on l'imagine. Dans ses Notes sur la littérature de 1962, le philosophe Adorno a publié un de ses textes intitulé « Engagement ». Il remarque que l'opposition entre les tenants de l'art engagé et les partisans de l'art pour l'art est factice. Chacun des termes se nie lui-même, écrit Adorno. L'art engagé parce qu'il prétend supprimer la différence entre l'art et la réalité alors qu'il se distingue nécessairement de celle-ci puisqu'il est art. Et l'art pour l'art parce qu'en se voulant un absolu, il nie cette relation obligée à la réalité implicitement contenue dans son geste de s'extraire d'elle. Adorno moque d'ailleurs le côté affecté des œuvres qui tiennent trop à leur engagement, comme certaines pièces de Brecht. Et puis, amusé, il note que le meilleur dans le théâtre de Sartre sabote le propos de Sartre sur la liberté et l'engagement, car justement, on y apprend là que nous ne sommes pas libres. À l'inverse, dit-il, les œuvres qui assument leur autonomie, la prose de Kafka, les pièces de Beckett, ainsi que l'innommable roman de Beckett véritablement extraordinaire, écrit Adorno, produisent un effet à côté duquel les œuvres officiellement engagées ont l'air de jeux d'enfants. L'œuvre la plus sublimée cache quelque chose comme « il faut changer le monde ». L'art pour l'art est en effet le nom donné, parfois un peu vite, à toute une tendance poétique française du XIXe siècle. Eh bien, elle mérite vraiment d'être examinée en pensant à ces phrases d'Adorno qui complexifient l'affaire. Elles prémunissent ces phrases contre toute caricature, car refuser l'œuvre immédiatement utile, est-ce vraiment abolir tous les enjeux politiques attachés à la création artistique ? Bonjour Martine Lavaux.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université d'Artois, spécialiste de Théophile Gautier. Vous avez publié notamment aux éditions Champion, Théophile Gautier, militant du romantisme. Et bonjour Jean-Marc Ovas.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sorbonne Université. Vous avez notamment écrit une biographie de Victor Hugo en 2 tomes, publiée chez Fayard. Alors je crois qu'avec vous deux, nous allons déjouer beaucoup de stéréotypes à propos de l'art pour l'art, les oppositions, disons, trop tranchées, par exemple, entre Théophile Gautier et Victor Hugo. Voici tout de suite, pour commencer, un extrait du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, ce roman du début des années 1860, où un baron un peu morne se laisse séduire par une troupe de comédiens qui l'emmène en voyage.
Voilà, le tour est fait. Vous avez fait connaissance avec toute la troupe.
Je bénis le hasard qui vous a mis sur mon chemin. C'est la première fois, depuis bien longtemps, que j'entends rire entre ces murs.
Mais pourquoi y restez-vous, monsieur ?
Mais il a raison ! Je vous jure bien, moi, que si j'étais baron de votre âge et de votre mine, je ne resterais pas à me morfondre dans ce château des 80. J'irais à Paris.
Et qui ferais-je ?
D'abord des dettes, ce qui vous fait des relations. Et fortune, pour finir.
Qui se souvient des cigognacs à la cour ? Et d'ailleurs, comment entreprendre un tel voyage ? Je n'ai ni argent ni équipage.
Venez avec nous.
Pas la bonne idée. Notre auteur vient de nous quitter. Vous prendriez sa place?
Vous seriez le poète de la troupe. Ne refusez pas.
Me montrer à Paris dans ses guenilles.
Un poète modestement vêtu n'a jamais fait sourire personne.
Alors, qu'en dites-vous? C'est oui?
C'est peut-être. Je ne sais pas encore.
C'était un extrait du Capitaine Fracasse, une adaptation du roman de Théophile Gautier par Pierre Gaspard Huy en 1960 avec notamment Jean Marais, Louis de Funès, Philippe Noiret. Je voudrais tout de suite vous demander, Martine Lavaux, si ce qu'est, ce que représente cette troupe qui emmène ce baron un peu tristounet en voyage, cette troupe de théâtre représente-t-elle le non-lieu, le dégagement loin de la réalité sociale ?
Oui, ça n'est pas faux. Il y a de ça, parce que même si le texte renvoie à l'époque Louis XIII, on s'aperçoit que l'histoire a une très faible part dans le texte. À un moment donné, le baron, donc qui n'a plus d'argent et qui s'engage finalement dans une troupe, Là, il ne sait pas dans l'extrait que nous avons entendu, mais il va vraiment s'engager. Oui. Et il va rencontrer le bonheur, non seulement parce que l'une des comédiennes va devenir sa future, enfin, deviendra son épouse, mais aussi parce qu'il va rencontrer un succès artistique sur les planches, en réalité. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au fond, ce qu'il veut, c'est profiter du voyage à Paris pour rencontrer le roi et rétablir sa fortune. Or, il se trouve que sa fortune, son bonheur personnel, il l'acquiert en rencontrant sa future femme et en connaissant une certaine gloire sur la scène. Mais à un moment donné, il va croiser la trajectoire du roi sur le Pont Neuf. Et ce roi, ce sera une espèce d'ombre diaphane, totalement insignifiante, qui passe devant lui sans aucune conséquence sur sa propre trajectoire. Donc c'est vraiment une négation de l'histoire,
du pouvoir,
comme étant indépendant de son bonheur en réalité, qu'il rencontre
donc,
ailleurs.
Donc ce qui compte n'est pas le pouvoir et, disons, la vision sociale ordinaire avec les rôles que nous avons dans la société les uns les autres. Ce qui compte, nous dit là Gautier, c'est la fantaisie, c'est le jeu, J.E.U. théâtral, c'est la beauté et c'est l'amour.
Oui, c'est ça, c'est ce qui réinvente la vie. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une querelle un peu sur le dénouement du roman, parce qu'à la fin du roman, le baron de Sigognac retrouve la fortune, il se marie et il fait reconstruire son château délabré. Mais en réalité, Gautier dispose des petits signes discrets pour nous dire que, au fond, c'est le mauvais dénouement. C'est-à-dire qu'il s'embourgeoise, il rentre dans le système en quelque sorte, mais au fond... Il devient médiocre d'une certaine manière. Enfin, je force un peu le trait, c'est pas aussi criant. Mais il y a une sorte de salut dans une forme de marginalité et de liberté de la création et du statut d'acteur.
Alors, la société peut être aussi représentée dans le roman par un duc qui est son rival, n'est-ce pas, auprès de sa future femme. Mais le baron échappe toujours à la mort dans les duels. C'est comme si, fort de l'amour et du rapport au théâtre, il était plus fort que les rivalités sociales ordinaires.
Oui, c'est ça. Alors après, il y a aussi une part, une belle part faite à certains stéréotypes du roman feuilleton, parce que c'est un très grand roman feuilleton. D'ailleurs, je regrette qu'on ne l'étudie pas davantage, parce que je trouve que c'est un texte absolument magnifique. Donc il y a aussi cette part-là de romanesque, en quelque sorte, du héros qui surmonte tous les duels.
Oui, alors, puisque nous parlons des rapports entre art et pouvoir et de cette doctrine dite de l'art pour l'art, nous reviendrons sur cette expression, bien sûr, complexe, que Théophile Gautier, partagera, et même incarnera au cours du XIXe siècle. Est-ce qu'on touche tout de suite, avec le capitaine Fracasse, à une tension? À la fois, son héros se dégage de la société, des figures de pouvoir, etc. Mais le fait même de se dégager est un propos critique. Vous venez de le dire, il critique le jeu social ordinaire, etc. Donc au fond, ça n'est pas s'enfermer dans une bulle. La critique, c'est quand même tisser un lien, certes polémique, mais un lien avec cette réalité sociale.
Oui, alors, il ne faut pas qu'il y ait de méprise, le baron ne critique pas. Enfin, c'est vraiment...
Non mais l'œuvre, je parle de
l'œuvre. Oui, alors l'œuvre, ce n'est pas réellement une critique. Je pense que le sujet social et historique est laissé de côté. Il n'y a pas de discours frontal à l'égard de ces questions-là. Certes, dans l'avant-propos, il y a une partie du texte qui indique qu'il faut toujours cultiver l'art libre en dehors de toute visée politique, c'est-à-dire que le message initial perdure.
Oui.
Même si on a voulu faire du capitaine Fracasse une sorte de réponse, ou du moins de pas de côté par rapport à Victor Hugo, qui avait publié l'année précédente Les Misérables, qui est un roman très très différent. En réalité, ça n'est pas vrai. Certains critiques, je pense à Pierre Laforgue, ont fait du roman du capitaine Fracasse une forme d'opposition, ou du moins de protestation en acte par le traitement même, par l'absence du politique et du social dans le texte. Mais c'est pas vrai, en réalité. Ça ne se vérifie absolument pas. Et il y a une allusion à Hugo... mais un autre texte de Hugo qu'il n'a jamais écrit dans la préface, mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt parce que lui-même, Gautier, avait une dette avec Capitaine Fracasse. Ça faisait des années, des dizaines d'années qu'il disait qu'il allait l'écrire, il ne le faisait jamais, et il a fini par y arriver. Mais c'est plutôt... Voilà, donc il n'y a pas d'opposition.
Bon, donc si on sent des petites touches critiques, il ne faut pas oublier quand même le ce que dit fondamentalement le capitaine, cette œuvre, c'est que on fait bien de se dégager de la réalité sociale, de même sur un mode critique, c'est pas là que se trouvent les choses essentielles. Il faut trouver un lieu mental et personnel au-delà.
Voilà, c'est ça.
Alors maintenant, je vais me tourner vers le spécialiste de Victor Hugo. Jean-Marc Ovas, quand on présente les choses ainsi, Hugo semble être tout le contraire. C'est-à-dire que voilà, Les Misérables, au contraire, il peint la réalité sociale, il suscite des émotions chez les lecteurs pour que nous ayons une vraie empathie, une vraie proximité, notamment avec la misère, avec la révolte, avec la souffrance sociale. Mais si on refait tout l'itinéraire de Hugo, il ne faut peut-être pas oublier que d'abord Hugo, jeune romantique, dans les années 1800, n'était pas loin de chercher un lieu, lui aussi, au départ, un lieu en quelque sorte magnifique, de beauté, au plus loin, si possible, des figures de philosophes, des Lumières, engagés, etc.
Alors, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Disons que c'était bien de partir du Capitaine Fracasse parce que c'est les années 60 et c'est vraiment le moment où la querelle de l'art pour l'art bat son plein. C'est ces années-là. C'est donc Les Misérables en 60, on va pas faire la chronologie précise, mais Les Misérables en 62, Le Capitaine Fracasse en 63 et surtout William Shakespeare de Victor Hugo en 64. William Shakespeare, c'est un grand essai de Victor Hugo philosophique qui répond en quelque sorte à la mauvaise réception de son roman Les Misérables parce qu'il a été attaqué par tout le monde. Surtout par tous les écrivains qui n'ont pas supporté l'aspect prédicateur du roman, c'est-à-dire tout ce qui est
trop engagé, dirions-nous aujourd'hui
trop engagé,
après ça.
Et donc Flaubert, qui adore Hugo, déteste ce roman. Dumas, même Dumas, on dit du mal. George Sand est désespéré. Enfin, tous les grands écrivains, aucun grand écrivain ne prend la défense de ce roman.
Et Hugo, comment réagit-il ?
Ben, il le sent très bien. Il le sent très bien et il dit même mes amis, les meilleures critiques que j'ai, c'est pas trop mal. Et il le sent très bien. Et c'est pour ça qu'il publie ce livre William Shakespeare dans lequel il se défend. Il explique ce qu'il a voulu faire avec Les Misérables. Et c'est là qu'il y a une partie entière sur le beau et l'utile, où il explique d'abord que il n'a jamais dit l'art pour l'art, parce qu'on lui a dit que c'était lui qui avait été le modèle quand il était jeune, justement parce qu'il avait publié des œuvres, et surtout les orientales, qui étaient des œuvres d'art qui paraissaient complètement désengagées. Et donc, il publie noir sur blanc, on peut lire toute mon œuvre, je n'ai jamais écrit l'art pour l'art.
Donc, en fait, voilà, je vous propose qu'on laisse un tout petit peu, là, juste pour commencer cette expression de côté, pour qu'on voit comment elle est venue, parce qu'elle n'était pas là tout à fait au début, on va parler du Parnasse, mais même, je crois, au début, l'expression n'était pas employée. Alors, faisons tout de suite un sort à ce point. Le Parnasse, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Martine Lavaux, puis on va revenir à Hugo par rapport au Parnasse. Martine Lavaux, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? En 1866, Alphonse Lemaire, qui est, je crois, un éditeur, publie un texte qui s'appelle Le Parnasse contemporain. Le Parnasse, c'est un mont dans la mythologie grecque où Apollon était là avec ses muses, une beauté hors sol, comme nous dirions peut-être aujourd'hui. Est-ce que l'expression là, art pour l'art, est employée ?
Oui, elle est employée. Il s'agit toujours de cultiver la forme pour elle-même, sans autre but particulier, sans visée utilitariste immédiate. Et le Parnasse regroupe un certain nombre d'écrivains, de poètes, qui se réunissent souvent effectivement chez cet éditeur Lemaire. Alors je ne sais pas s'ils sont hors sol, mais en tout cas ils se réunissent dans l'entresol des éditions Lemaire.
Tu dis comme on dirait aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Ils
veulent
se dégager d'une littérature, on dirait engagée aujourd'hui, parce que Sartre a écrit et a donné ce terme.
Oui.
Mais ces gens-là, alors ils sont plus très connus à part Gautier.
Alors il y en a quelques-uns qui sont connus. Il y a Gautier,
le comte de Lille,
il y a Théodore de Banville, il y en a d'autres.
Qui lit encore ces gens-là ?
Alors le comte de Lille, oui, il reste un peu lu quand même. Enfin, quand on évoque son nom, les gens connaissent quand même. Oui. Il y a d'autres noms effectivement.
On l'apprend à l'école.
Oui, un petit peu, moins en moins, mais voilà. Alors
il y a Baudelaire dedans ?
Baudelaire, non. Eh oui. Pas réellement.
Parce qu'on dit parfois qu'il était rattaché, mais non, il n'est pas là-dedans.
Baudelaire et Baudelaire.
Exactement.
Une sorte.
Bon, donc, l'art pour l'art est quand même employé, mais disons que il est intéressant de voir d'où ça vient. Et alors, je reviens à Hugo. Hugo, lui, Parlez-nous du jeune Hugo, celui qui écrit dans les années 1800, tout jeune, dans La Muse française, qui est quand même un journal contre-révolutionnaire, mais voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'a pas exactement les mêmes questions que des gens comme Gautier, il a
non,
quelques années de plus.
Non, pas c'est encore. Différent. Il vient vraiment du 18e, et c'est ça qui est fascinant et qu'on oublie un peu, c'est que ses premiers textes, et notamment son premier recueil de poésie, il a 20 ans, 1822, donc 20 ans. Première phrase de la préface, je vous la lis quand même parce qu'elle est remarquable, parce que ça dit toute son œuvre. Il y a deux intentions dans la publication de ce livre, l'intention littéraire et l'intention politique.
Là, vous
parlez
de quelle
phrase de son premier livre publié, donc 22 ans, Les Odes et Poésies diverses. Il a 22 ans, on est en 1822. Donc, il commence quand même par la littérature engagée, ça fait aucun...
Ah d'accord, donc on a tort de lire en lui qui cherche une poésie sortie, justement pas dans le côté prédicateur
il évolue très très vite, mais en l'année suivante encore, tout écrivain, dans quelque sphère que s'exerce son esprit, doit avoir pour objet principal d'être utile. Incroyable. Première phrase de la deuxième préface en 23, cette fois. Donc, tout écrivain
alors,
doit
utile
être utile.
À quoi politiquement
utile.
À cette époque-là
pour lui, eh bien, c'est une bonne question. Dans les odes qui préfacent, les odes qui suivent, après cette préface, ce sont des odes politiques. C'est une ode sur la Vendée, qui est un éloge de la Vendée. C'est le baptême du duc de Bordeaux. C'est la mort du duc de Berry. Donc, il célèbre les grands... C'est comme les grands poètes grecs de l'Antiquité.
Il célèbre
les grands événements monarchiques de son temps.
Il est anti-républicain à ce moment-là. Il est contre-révolutionnaire.
Absolument. Il est ultra-royaliste.
Ultra-royaliste.
Il vient de là. Mais il évolue très rapidement. Et ça, c'est uniquement de la décennie 1820. On a, à la fin de la décennie, les Orientales, qui sont un feu d'artifice coloré de poésie qui paraît gratuit. Donc il y a une évolution régulière des odes aux ballades aux Orientales.
Diriez-vous que le moment où on va entendre un extrait de la préface des Orientales, le moment où il veut se dégager et parle un peu comme parleront plus tard les poètes du Parnasse, est un moment où il essaye de se guérir de ses engagements ultra-royalistes de jeune
homme. C'est déjà terminé. Il est plus du tout ultra. Ouais. Il est devenu libéral, ça va très vite. Hein. Ça dure quelques années. Il a été monarchiste ultra par son éducation. Il le reconnaît. Il s'en dégage assez vite. En 25, c'est quasiment terminé. En 27, 29, c'est loin de lui déjà. Il est devenu libéral.
Alors voyons comment il parle dans ce texte qui a beaucoup marqué, notamment Théophile Gautier. Vous nous le repréciserez, Martine Lavaux. Victor Hugo, préface du recueil Les Orientales, 1829.
L'art n'a que faire des lisières, des menottes, des bâillons. Il vous dit « va » et vous lâche dans ce grand jardin de poésie où il n'y a pas de fruits défendus. L'espace et le temps sont au poète. Que le poète aille où il veut, en faisant ce qui lui plaît, c'est la loi. Qu'il écrive en prose ou en vers, qu'il sculpte en marbre ou coule en bronze, qu'il prenne pied dans tel siècle ou dans tel climat, qu'il soit du Midi, du Nord, de l'Occident, de l'Orient, qu'il soit antique ou moderne, que sa muse soit une muse ou une fée, qu'elle se drape de la colocasia ou s'ajuste la cotardie, c'est à merveille. Le poète est libre. Mettons-nous à son point de vue et voyons. Il est advenu souvent à l'auteur de ces lignes qu'au lieu de lui dire simplement « Votre livre est mauvais », on lui a dit « Pourquoi avez-vous fait ce livre ? Pourquoi ce sujet ? Ne voyez-vous pas que l'idée première est horrible, grotesque, absurde, et que le sujet chevauche hors des limites de l'art ? Cela n'est pas joli, cela n'est pas gracieux. » À quoi il a toujours fermement répondu que ses caprices étaient ses caprices, qu'il ne savait pas en quoi étaient faites les limites de l'art, que de géographie précise du monde intellectuel, il n'en connaissait point. Qu'il n'avait point encore vu de carte routière de l'art, avec les frontières du possible et de l'impossible tracées en rouge et en bleu. Quand enfin il avait fait cela, parce qu'il avait fait cela. Si donc aujourd'hui quelqu'un lui demande à quoi bon ces Orientales, qui a pu lui inspirer d'aller se promener en Orient pendant tout un volume ? Que signifie ce livre, inutile de pure poésie, jeté au milieu des préoccupations graves du public et au seuil d'une session ? Où est l'opportunité ? À quoi rime l'Orient ? Il répondra qu'il n'en sait rien, que c'est une idée qui lui a pris, et qui lui a pris d'une façon assez ridicule. L'été passé, en allant voir coucher le soleil.
Extrait de la préface des Orientales de Victor Hugo, lu par Riyad Kera de notre équipe. On est en 1829, Jean-Marc Kovas. Hugo a 27 ans. Théophile Gautier a à peu près 18 ans. On ne sait pas encore qui est vraiment Théophile Gautier. Par contre, Hugo, on voit un jeune homme qui soudain n'est plus engagé dans un camp politique et qui défend un art sans limite. Cet art est-il en quelque sorte hors société ?
Alors pas du tout, il faut toujours se méfier des préfaces par rapport aux œuvres, et surtout chez Hugo. Donc effectivement, l'extrait qu'on a choisi, là, c'est vraiment le moment où il est le plus proche de l'art pour l'art, et c'est l'expression « ce livre inutile de pure poésie ». Le problème, c'est que ce livre inutile de pure poésie, ça ne décrit pas les Orientales qui suivent. C'est-à-dire qu'il y a les poèmes qu'on connaît, les djinns, par exemple, qui sont un poème très virtuose en vers de 2, 3, 4, 5, 6, 7 syllabes, etc. Donc il y a des jeux sonores énormes, des jeux sur les rythmes, sur les rimes, etc. Mais il y a aussi dans le même recueil un poème qui s'appelle Buonaparte, qui est un des poèmes les plus importants de Victor Hugo sur Napoléon. Donc il y a des textes engagés dans les Orientales, de même qu'il y avait des textes de fantaisie dans les autres ébalades. Donc c'est...
Mais c'est peut-être parce que, sans que les mots soient encore prononcés, cette histoire d'art pour l'art qui viserait un lieu hors sol, disais-je, comme on dit aujourd'hui, tout à l'heure, mais hors société, ça n'a pas de sens. Personne dans l'art pour l'art n'a jamais cessé de parler de la réalité sociale. Simplement, c'est l'idée d'une liberté parfaite de l'artiste, d'un point de vue inouï. Hugo, avant tout le monde, nous dit cela, non ?
C'est vrai, mais d'un autre côté, beaucoup plus tard, dans William Shakespeare, il fait bien la distinction quand même entre les deux types d'œuvres, entre les œuvres qui sont totalement désengagées et les œuvres qui sont engagées. Mm-hmm. Il dit, si votre œuvre d'art n'a aucun rapport avec la réalité et est complètement désengagée, c'est bien, c'est déjà ça. Mais si elle est engagée et si elle sert à quelque chose, c'est mieux. Donc c'est bien, mais c'est mieux.
Donc c'est quand même le moment où Hugo... Et le plus, dans tout son itinéraire, en tout cas dans l'effet d'annonce, et peut-être seulement dans l'annonce, le dégagement ou le désengagement.
Mais dans le recueil aussi quand même, puisqu'il y a le poème Buonaparte, mais c'est à la fin du recueil, il y a quand même beaucoup de pièces qui sont des pièces Sarah la baigneuse, enfin qui sont des tableaux, et c'est de la poésie très très visuelle, très picturale, beaucoup de couleurs, de musique, ça a fait un effet très très important dans le paysage poétique français. Et les Parnassiens, 40 ans plus tard, se réfèrent toujours aux Orientales. C'est leur recueil. C'est pas les autres ébalades, c'est pas les...
Et Hugo, qu'est-ce qu'il pensera plus tard des Orientales ?
Ah, il
ne renie rien.
Il ne renie jamais rien. Et donc, mais simplement, ce sera vraiment le dernier recueil aussi désengagé quand même de sa part, malgré tout.
Bon. Alors, pendant ce temps-là, ce jeune homme Théophile Gautier grandit. Il y a la révolution de 1830, enfin au moins les trois grandes journées dites trois glorieuses. Il est là, Théophile Gautier ? Martine Lavaux.
Alors, il est surtout là un petit peu avant. Le 25 février 1830, il y a la bataille d'Hernani. Et pour lui, c'est le vrai combat, beaucoup plus que la scène politique.
Il est sur les barricades ?
Ah non.
On clarifie, parce qu'on dit souvent qu'il avait un costume rouge.
Enfin, ah oui, alors ça, c'est
qu'est-ce
autre... justement.
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ?
Alors, il avait un gilet rouge, en effet, le fameux gilet rouge, mais qui n'était pas destiné à livrer une bataille politique, mais une bataille littéraire, puisque le gilet rouge, c'est celui qu'il a arboré pour contraster avec le bourgeois tout en noir, les hannetons trempés dans l'encre, comme il les appelait. Et il se rend, lors de la représentation d'Hernani de Victor Hugo, qui est une pièce qui a donné lieu à une célèbre bataille, donc la fameuse bataille d'Hernani. Et là, il est considéré comme le capitaine des romantiques, qui va défendre, comme sur un champ de bataille, l'art de Victor Hugo et l'art en général, la liberté dans l'art, notamment dramatique en l'occurrence. Donc il est vraiment associé à cela, il se laisse pousser les cheveux longs pour protester aussi contre, enfin voilà, pour prendre le contre-pied esthétiquement du bourgeois utilitariste, encore resté à un classicisme un peu étriqué, et à un moralisme un peu étriqué. Et pour lui, enfin, quand on dit 1830, pour Victor Hugo, c'est, enfin, pour Théophile Gautier, la bataille, c'est vraiment celle-ci. Voilà, c'est pas vraiment les barricades de juillet.
Sont
c'est
esthétiques. Il, oui. il sera cohérent toute sa vie là-dessus.
Ah, complètement.
Alors ouais. que, bon, chez Hugo, on voit bien, là, on a déjà commencé, que c'est une préoccupation, ça le travaille, et il y a des moments différents. Chez Gautier, les vraies batailles ne sont pas politiques, elles sont esthétiques.
Et de ce point de vue-là, il ne retournera jamais sa veste ou son gilet, pourrait-on dire.
Oui.
Contrairement à ce qu'on a régulièrement prétendu.
Alors, en tout cas, pour ce qui concerne Gautier, c'est dans la préface de Mademoiselle de Maupin, en 1834, une œuvre de Gautier, donc, que ce jeune Théophile, qui n'est plus si jeune, exprime les choses de la manière la plus franche, classique, très connue. Voilà, alors vous me direz si on peut résumer ça par l'art pour l'art, programme du Parnasse, ou si c'est plus complexe, vous me direz tout à l'heure, écoutez ce texte.
Rien de ce qui est beau n'est indispensable à la vie. On supprimerait les fleurs, le monde n'en souffrirait pas matériellement. Qui voudrait cependant qu'il n'y eût plus de fleurs ? Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu'aux roses. Et je crois qu'il n'y a qu'un utilitaire au monde capable d'arracher une plate-bande de tulipes pour y planter des choux. À quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu'une femme soit médicalement bien conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour des économistes. À quoi bon la musique ? À quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer Mozart à M. Carrel et Michel-Ange à l'inventeur de la moutarde blanche ? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins. Et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. Moi, n'en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est le nécessaire, et j'aime mieux les choses et les gens en raison inverse des services qu'ils me rendent.
Et c'est Antoine Ravon de notre équipe qui prêtait sa voix au jeune Théophile Gautier. Alors c'est ça l'art pour l'art, Martine Lavaux, l'expression n'est pas dans le texte, mais c'est pas d'art utile, valorisons le superflu, le gratuit. C'est ça ?
Oui, sauf que là, il y a quelque chose qui rompt un petit peu avec le futur Théophile Gautier, c'est non pas la position fondamentale, c'est-à-dire l'art qui ne vise que le beau, prioritairement, mais ce qui différencie ce Gautier-là du futur, c'est la tonalité, l'engagement polémique. Il a encore son gilet rouge quand il écrit ce texte, et il faut contextualiser aussi. Alors, on a fait de ce texte aussi une espèce de texte qui montrait une opposition à Hugo.
Bah, ça marche du côté, pas parce voilà, qu'on va en envoyer un autre bah, de voilà, la même justement, année de Victor Hugo.
Justement.
Il dit exactement la même chose.
Et on a même lu des critiques qui disaient que Gautier s'opposait dans ce texte à littérature et philosophie mêlées. Donc là encore, ça ne fonctionne pas. En fait, juste pour contextualiser, quelques mois avant, il a écrit un texte sur un auteur donc, qui est Villon. Et il a livré dans ce texte des scènes assez érotiques. Ça a choqué le bourgeois, le Constitutionnel, qui est un journal bourgeois, entre guillemets, a mené une croisade contre lui. Et là, il est en train de perdre son procès. Et donc, ce texte est aussi une vengeance.
Une défense.
Hein, une défense et une vengeance.
Hein, contre... Mais alors, donc, alors merci, parce que du coup, on est exactement dans le problème, la tension qui est dans cette notion d'art pour l'art. C'est qu'en fait, l'art pour l'art, encore une fois, est extrêmement critique de la bourgeoisie, des valeurs bourgeoises, vous venez exactement de le dire. Et donc, imaginez qu'il est coupé de tout enjeu social et politique est bien trop rapide. Certes, l'art ne doit pas être utile, mais l'art est un scandale.
Oui. Alors...
Défendant les poèmes érotiques, défendant tout ce qui choque le bourgeois.
Oui, bien sûr. Mais ça, effectivement, Gautier le dit depuis le début, il continuera. Ce qu'il le fera, en fait, il n'y aura pas de revendication, je dirais, polémique. Il ne montera pas sur la tribune, il le fera. C'est-à-dire qu'il continuera, même sous le Second Empire. Là, par exemple, il critique les journalistes, qui sont vraiment, alors là, la mort de la littérature. 2 ans plus tard, il est journaliste, il n'en sortira jamais. Hein. Je veux dire, il est journaliste pour la presse, etc. Donc il va aussi investir le système du journalisme et un système aussi qu'il critique, mais à l'intérieur de ce système, il fera son nid et il en profitera pour donner aux bourgeois, entre guillemets, des cours, il livrera des textes de critique d'art, une sorte d'éducation au beau. Oui. D'opérations de sauvetage du bourgeois, en quelque sorte, à l'intérieur du système médiatique, par exemple. Donc, c'est plutôt la façon de lutter qui va changer.
Oui.
Là, on a un discours très bruyant qui est encore très rouge, très gilet rouge. Hein.
Après, enfin, gilet rouge au sens esthétique. Oui.
Oui, puis au sens de la visibilité.
La bataille esthétique est déjà politique. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Vouloir séparer les deux. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Ovaz, que... Même chez Gautier, on va venir à Hugo dans un instant, la revendication de l'art inutile, qu'on le veuille ou non, a déjà quelque chose de très politique. Politique, comme disait Adorno dans les phrases que j'ai citées au début de cette émission, il y a une sorte de « il faut changer le monde » dans le seul fait de vomir le monde, quoi.
Oui, c'est vrai, mais ça va avoir des limites quand on va arriver sous un régime autoritaire... sous le régime autoritaire du Second Empire, parce que là, il va falloir faire quelque chose. C'est vrai, mais il y a des limites quand même, je trouve.
Alors, on est en 1834, nous avons entendu Théophile Gautier refuser l'art utile, et bien la même année, dans un essai qui s'appelle « Littérature et philosophie mêlée », Victor Hugo fait de même, il récuse l'utilité de l'art.
Le produit le plus notable de l'art utile... De l'art enrôlé, discipliné et assaillant, de l'art prenant fait et cause dans le détail des querelles politiques, c'est le drame pamphlet du XVIIIe siècle, la tragédie philosophique, poème bizarre où la tirade obstrue le dialogue, où la maxime remplace la pensée, œuvre de dérision et de colère qui s'évertue étourdiment à battre en brèche une société dont les ruines l'enterreront. Certes, bien de l'esprit, bien du talent, bien du génie a été dépensé dans ces drames faits exprès qui ont démoli la Bastille. Mais la postérité ne s'en inquiétera pas. La postérité s'occupera moins encore de la tragédie politique de la Restauration qu'a engendré la tragédie philosophique du XVIIIe siècle, comme la maxime a engendré l'allusion. Tout cela a été fort applaudi de son temps et est fort oublié d'une autre. Il faut après tout que l'art soit son propre but à lui-même, et qu'il enseigne, qu'il moralise, qu'il civilise et qu'il édifie chemin faisant, mais sans se détourner et tout en allant devant lui. Plus il sera impartial et calme, plus il dédaignera le passager des questions politiques quotidiennes. Plus il s'adaptera grandement à l'homme de tous les temps et de tous les lieux. Plus il aura la forme de l'avenir.
Il faut que l'art soit son propre but à lui-même, dit ici en 1834 Victor Hugo, et qu'il vise quelque chose comme la postérité et non pas son temps présent et l'utilité immédiate. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Ovaz, que c'est dans les Orientales, 5 ans plus tôt, que Victor Hugo était le plus désengagé ou dégagé dans sa conception de l'art. Là, c'est pas mal non plus.
Mais alors, une littérature de philosophie mêlée, c'est un bilan de ces 10 dernières années. Donc, ça correspond bien. Il n'y a pas d'évolution. Enfin, c'est effectivement, celui-là est un texte de 34, mais c'est le bilan. C'est un livre bilan, comme William Shakespeare.
C'est le même moment.
C'est vraiment la fin de la même séquence, on pourrait dire, si on parlait comme les politiciens. Ce qu'il attaque, c'est pas tant l'art engagé que le mauvais art engagé.
C'est
difficile à dire, mais c'est ça. C'est les mauvaises tragédies, c'est les auteurs qui n'ont rien compris. Hugo était un immense artiste, et l'amitié et l'admiration qu'il avait pour Gautier, et qui était réciproque pendant presque toute leur vie, même toute leur vie, je crois, Gautier trouvait chez Hugo cet immense artiste. Les Goncourt aussi l'ont trouvé, par exemple, un peu plus tard. Mais il n'y avait pas que ça chez Hugo. Et il était suffisamment... avisé pour faire la distinction entre le mauvais art engagé et le bon art engagé qu'il a essayé de faire lui-même.
Donc l'art utile, c'est juste le nom qu'on donne à l'art mauvais.
C'est comme ça que j'entends le texte pour moi, mais c'est comme ça que j'entends le texte.
Oui. Et vous pensez que la touche, la tonalité, pour le dire d'un point de vue musical, est quand même... moins hostile à l'engagement chez Hugo que chez Gautier, alors qu'ils s'engagent tous les deux, si j'ose dire, contre l'art utile la même année. Il y a quand même chez Gautier quelque chose qui essaye de sauver l'art d'un enracinement dans le monde social et politique, plus que chez Hugo.
Oui, et puis Gautier est l'exemple, c'est presque le seul de tous ces grands auteurs du XIXe siècle, qui ne s'est pas engagé du tout. C'est-à-dire que même Vigny, qui, à l'époque de Victor Hugo, aurait pu avoir un peu les mêmes positions, Vigny a fini par se présenter aux élections.
Comme Lamartine, comme
c'était
Hugo.
C'était le grand modèle. Hugo, c'est la plus grande carrière politique, comme Chateaubriand avant, oui.
Changement quand même, pour les trois, en changeant complètement d'option politique, puisque tous ces gens-là, dans leur jeunesse, étaient, nous l'avons dit, plutôt contre-révolutionnaires, ultra-royalistes.
Très longtemps après, mais bien sûr.
Donc tous vont faire ce parcours-là.
Voilà, mais Gautier, non. Gautier est très cohérent avec avec ce qu'il dit. Et ça, c'est très agréable, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout... il n'a pas varié là-dessus. Et c'est toujours très efficace et très drôle, sa préface de Mademoiselle de Maupin. Enfin, l'extrait qu'on a entendu, c'est magnifique. Et c'est pareil, la préface des Mots et Camés. Enfin, c'est la même chose en vers. Mais il reste vraiment sur cette lignée-là, en revendiquant presque trop le désengagement. Mais c'est très efficace.
Martine Lavaux, il faut même pour Gautier sauver le romantisme, quelque chose du romantisme qui précisément était libre de tout en engagement ou enracinement dans des combats. Est-ce que le romantisme anglais dont nous avons parlé dans le troisième épisode, William Morris et avant lui John Ruskin, sont des gens qui se sont engagés, en tout cas pour Morris, dans la lutte socialiste, dans la critique sociale pour Ruskin? Est-ce que tout ça, Gautier ne supporte pas, et dès le début et pour toujours?
Si, il le supporte quand même, sinon il n'aurait jamais supporté Gautier. Hugo, pardon.
Il ne supporte ça que chez son ami Hugo, au fond.
Pas exactement, c'est-à-dire, je pense qu'il est d'accord avec Hugo, et Jean-Marc me dira si je me trompe, lorsqu'il parle de la sainteté involontaire de l'art. Je crois qu'il y a cette expression-là en 1864 chez Victor Hugo. Il y a un point de contact, dès lors qu'effectivement le beau est atteint. Alors, il peut y avoir effectivement une utilité sociale, mais de toute façon, pour Gautier, l'art est utile, enfin le beau est utile quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, il rejoindrait un peu Hugo sur cet autre point.
Le beau est utile.
Le beau est utile, oui, malgré tout. Enfin,
mais il ne doit pas chercher à l'être.
Et il est d'autant plus utile qu'il ne cherche pas à l'être. C'est-à-dire qu'on arrive à un résultat esthétique.
Tout le monde qui ne dit pas cela.
Mais dans les positions, vous savez, quand on regarde l'histoire de la littérature, elle force les positions et elle gomme absolument les nuances. De la même façon, quand on a fait de Gautier le champion de l'art polar du Parnasse replié hors de l'espace social, c'est tout. Aussi un peu une caricature. Alors, certes, Gautier ne s'est pas engagé politiquement, ça c'est certain. C'est pas un engagé, c'est un courtisan. Parce que quand Napoléon III arrive au pouvoir, Théophile Gautier est vraiment un proche.
Alors,
de
attaquons
la
le morceau Second Empire, je suis d'accord. Parce que là, ça va être l'heure de vérité.
Ouais.
Donc, Hugo part en exil. Mm-hmm. Il y a toujours cette amitié lointaine. Oui. On dit que Adèle Hugo, à sa table, n'était pas du tout, critiquait beaucoup avec son frère des gens comme Théophile Gautier, qui non seulement sont restés, mais ont été un peu subventionnés par Napoléon III.
Ouais.
Vous m'expliquerez exactement ce que ça veut dire. Et bon, Hugo ne l'enfonce pas. Mais enfin, c'est pas la même histoire, quand même.
Ah, ils continueront à s'écrire. Et je vais donner deux exemples, en réalité, de positionnement, qui révèle le positionnement de Théophile Gautier à cette époque. Certes, il est le contraire de Hugo. Lui, il devient courtisan, en quelque sorte. Enfin, on l'a appelé le poète courtisan. Il a aussi, grâce au Second Empire, une place de bibliothécaire impérial, parce qu'il est fauché, disons-le. Enfin, lui, il dit qu'il a les poches à marée basse.
Il touche de l'argent régulièrement du pouvoir? Non,
il vit principalement du journalisme, mais à un moment donné, ses finances sont vraiment très fragiles. Et il obtient, via d'ailleurs la cousine de Napoléon III, qui est la princesse Mathilde, une fonction de bibliothécaire impérial, bon, qui est un peu factice, en quelque sorte. Donc, les rapports avec le pouvoir sont très proches, mais ça ne l'empêche pas, dans le même temps, alors que Victor Hugo est parti en exil, d'écrire un très bel article sur la vente du mobilier de Victor Hugo. Je crois que l'article date de juin 1852. Et alors, il fait même un peu mieux, c'est-à-dire que il écrit aussi un poème, alors qu'il a écrit un poème officiel pour la naissance du prince impérial. Donc là, on est vraiment dans le poète courtisan. Il s'appelle Nativité. Plus tard, il écrit un poème qui s'appelle Les Mânes de l'Empereur, où il représente le moment où l'actuel Napoléon Napoléon III est parti en exil, et l'air de rien, il compare l'exilé Napoléon III avec Victor Hugo. C'est-à-dire qu'il introduit malgré tout l'ombre de Victor Hugo.
Donc ils font des clins d'œil, j'ai bien compris, mais enfin si l'art pour l'art, ça consiste concrètement à devenir un courtisan, Hugo, malgré toute sa bienveillance pour son ami, est obligé de voir qu'il y a là quelque chose d'intolérable pour lui, Jean-Marc Ovaz.
Il était intolérable pour lui-même, Hugo, et pas pour ses amis. Donc ça, il le dit souvent. Il répond ça à son fils qui s'énerve, effectivement, en disant tu vois ce qui est devenu Théophile Gautier. Et il dit moi, je ne juge pas. Voilà. Donc il refuse de l'attaquer. Mais effectivement, il y a un moment où c'est quand même un peu difficile et les positions sont tranchées fatalement par l'histoire. Et ça, c'est très visible aussi avec tous les poètes parnassiens qui sous le Second Empire, quand même, le Parnasse, le développement de l'école parnassienne, pour Hugo, en tous les cas, il le vit comme ça, une façon de ne pas parler de leur époque, de se retirer en dehors du Second Empire.
En ayant un lien concret au pouvoir, c'est ça le problème.
Ça, c'est pour Gautier, il y a un lien, mais même les autres, même s'ils ne touchent pas d'argent du pouvoir, ils ne luttent pas contre le pouvoir. Et c'est du coup, ils l'acceptent.
Une espèce d'exil, la notion d'exil intérieur qu'on développera plus tard, parfois, au XXe siècle.
Était, que Banville, par exemple, défend. Ouais. Il y a l'exilé, il publie un recueil qui s'appelle Les Exilés, alors qu'il restait sous le Second Empire. Ça, c'est Banville qui est assez proche de Gautier pour ses positions aussi, mais donc il y a des jeux entre les deux, mais c'est quand même manifestement l'idée de Victor Hugo, c'est d'appeler toute cette génération des jeunes parnassiens à s'engager. Et il leur écrit, il ne les lâche pas.
S'engager dans leurs œuvres ou dans leur vie? Parce que finalement, on peut
Les deux. Et ils envoient tous leur recueil de poésie à Victor Hugo. Et Hugo répond, ça dépend des cas, mais bientôt, ce sera beaucoup mieux quand vous aurez un esprit démocratique, etc. Et il leur dit leurs quatre vérités. Et ce qui est amusant, c'est qu'à la chute du Second Empire, tous les poètes parnassiens, même le comte de Lille, vont écrire des poèmes ultra engagés juste au moment la guerre contre l'Allemagne, l'année 70-71. Ils publient tous des poèmes engagés d'un seul coup, juste à la suite du Second Empire.
On va revenir à ce qui se passe, si j'ose dire, à la fin de la vie de tous ces gens-là. Mais puisque vous évoquiez tout à l'heure la séquence autour de la révolution de 1848, avant, en vérité, il nous reste quand même à écouter Gautier qui, en 1847, lui, va vraiment défendre l'art pour l'art encore. Je vous propose d'écouter ce texte de 1847 de Théophile Gautier.
L'art pour l'art signifie, pour les adeptes, un travail dégagé de toute préoccupation autre que celle du beau en lui-même. Quand Shakespeare écrit Othello, il n'a d'autre but que de montrer l'homme en proie à la jalousie. Quand Voltaire fait Mahomet, outre l'intention de dessiner la figure du prophète, il a celle de démontrer en général les inconvénients du fanatisme et en particulier les vices des prêtres catholiques ou chrétiens de son temps. Sa tragédie souffre de l'introduction de cet élément hétérogène et, pour atteindre l'effet philosophique, il manque l'effet esthétique du beau absolu. Quoiqu'Othello ne sape pas le moindre petit préjugé, il s'élève de 100 coudées au-dessus du Mahomet, malgré les tirades encyclopédiques de celui-ci.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous avons là un Théophile Gautier qui part avec ce bagage en 1847-48, la défense absolue de la gratuité de l'art. Et c'est évidemment avec cela qu'il se trouve lorsque arrive le Second Empire. Le Second Empire, donc, après le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. Vous me direz, Hugo parlait comme ça aussi. Il était contre l'art utile et il stigmatisait les œuvres médiocres à force de vouloir servir. Mais enfin, depuis le début, Jean-Marc Ovaz nous dit, attention, quand Hugo il dénonce l'art utile, il n'est pas pour un dégagement complet, si je puis dire, ou un désengagement complet. Là, Gautier, il est pris à son propre jeu. Il est obligé de dire que rien n'a d'importance, qu'il a un lieu mental et un lieu esthétique en lui. Tant pis s'il y a des liens avec Napoléon III, c'est pas le sujet. Il se dégage esthétiquement du politique.
Oui, alors ça c'est une position qui n'a jamais varié, du moins dans la création artistique, évidemment. Là, faut contextualiser, on est en 1847, donc évidemment le Second Empire n'est pas encore là.
La veille de la Révolution.
Voilà, et là, en réalité, si on contextualise, il veut redéfinir ce que c'est que l'art pour l'art, parce qu'il voit que la compréhension de cette position est mauvaise. Et en particulier, il y a un peintre genevois qui s'appelle Töpfer, qui explique que finalement, l'art pour l'art va finir par sombrer dans le formalisme le plus mathématique. Mm-hmm. Et que finalement, ça va dessécher, en quelque sorte, l'art. Et Gautier, là, essaie de montrer qu'il ne s'agit absolument pas, évidemment, de dissocier le fond de la forme, de faire de l'art pour l'art quelque chose de formaliste et de sec, mais que l'émotion... le souci de montrer quelque chose, par exemple la jalousie chez Shakespeare, permet à l'art de se dépasser en quelque sorte. Mais c'est quand il y a un message presque didactique qui prend le pas sur, évidemment, la forme, l'esthétique, le souci du beau.
Comme chez Voltaire,
comme chez Voltaire, la volonté de démontrer. Évidemment, sape la qualité de l'objet qui en résulte. Donc, en fait, il n'y a pas de contradiction par rapport à ce qu'il a dit avant.
Il ne se dit pas, voilà, l'art c'est son affaire, dégager du social et du politique, mais la vie, c'est-à-dire la vie de l'artiste. Gautier, il est dans quelle situation ? Il pourrait se dire, au fond, on peut laisser l'art en dehors des sujets politiques, mais après, il y a la question, tout simplement, de l'homme. Mmh. Est-ce que le Parnasse est finalement la grande source de la distinction, de la distinction radicale entre l'homme et l'œuvre ?
Oui, dans une certaine mesure, effectivement, mais si vous voulez parler par là, si vous voulez dire par là que le social n'intervient pas dans le discours, c'est ça, dans le propos du champion ou de l'art pour l'art ou du moins du parnassien. Oui, effectivement, cette dimension-là échappe en grande partie au sujet dont peut s'emparer l'art pour l'art, en quelque sorte. Gautier n'a jamais écrit de roman. Vraiment social, ça ne l'intéresse pas. Il s'enfuit d'ailleurs souvent dans l'orientalisme ou dans l'exotisme ou dans l'antiquité également. C'est une façon d'échapper, disons, à l'actualité plus exactement.
Alors si Victor Hugo s'empare de Shakespeare, c'est de quelles années ? Dans les années 1860, il est en exil, c'est ça ?
C'est ça, 64, qu'il écrit ses essais sur William Shakespeare.
Ouais. Qui vient juste, on l'a entendu... d'être montré par Gautier dans le texte qui vient d'être lu comme le contrairement à Voltaire, celui qui vise, dirait Hugo, la postérité, qui est au-delà de l'utile, c'est quand même pour dire des choses différentes de Shakespeare, non, que celles de Gautier. Et c'est dans ce livre, Jean-Marc Ovaz, que Hugo va dire « Non, mais l'art pour l'art, ça suffit, j'ai jamais utilisé cette expression. »
C'est un livre, dit-il lui-même, qu'il aurait dû l'appeler « À propos de Shakespeare ». Donc, il parle de tout. Et donc, ça a un peu scandalisé parce que ça s'appelle « William Shakespeare », le livre, mais il est question de Shakespeare, mais il est question de beaucoup d'autres choses, et notamment de cette question de l'art pour l'art. Pour l'homme et la vie, le grand texte de Victor Hugo sur Voltaire, c'est de dire Voltaire, c'est un génie, mais surtout, c'est l'affaire Calas. Donc l'affaire Calas, c'est pas l'œuvre de, c'est aussi un livre, mais c'est quand même d'abord une intervention dans la société contemporaine.
Ça, il le salue, Hugo.
Ah bah oui, c'est le texte définitif. Et je voudrais quand même sur la question Gautier Hugo terminer en appelant l'attention sur ce texte extraordinaire qui est peut-être le plus beau poème de Victor Hugo, qui est le poème qui s'appelle « À Théophile Gautier », qui est écrit pour le tombeau de Théophile Gautier, à la mort de Théophile Gautier. Il lui dit ceci, qui pourrait résumer toute la discussion, hein, je crois. Il est mort, Hugo s'adresse à lui, et il lui dit « Va trouver le vrai, toi qui sus trouver le beau ». C'est fascinant quand même.
C'est quand même une leçon donnée aux morts en 1872, aux morts au singulier, à Théophile Gautier. Bon, alors, que se passe-t-il pendant la Commune, pour Théophile Gautier, puisqu'il meurt seulement en 72. Que se passe-t-il pour Théophile Gautier pendant la guerre contre l'Allemagne, pour finir ?
Alors,
il va rester l'art pour l'art, gratuité totale, on parle de tout, mais on ne s'engage pas, ni dans l'œuvre, ni dans la vie.
Il y a deux textes dans les années 1870-1872. Il y a Tableau de siège, que Gautier est un ensemble d'articles qu'il réunit et que Gautier consacre à la Commune de Paris et à la guerre franco-prussienne. Et puis, par ailleurs, il y a l'histoire du romantisme. Pour faire écho à ce que disait Jean-Marc, Le dernier, l'histoire du romantisme est un texte qui n'est pas fini parce que Gautier meurt. Et le dernier chapitre est interrompu, donc il y a des traits de suspension, des points de suspension. Il est consacré à Victor Hugo et à Hernani aussi. Hein, donc déjà, donc l'hommage il se poursuit jusqu'à la fin. Pendant le siège de Paris, la Commune de Paris, Gautier est très clairement indigné par la violence des Prussiens d'une part et d'autre part des communards dans l'autre partie de tableau de siège. Donc, ce point de vue-là, il y a un patriotisme et un engagement du discours très clair. Il n'en reste pas moins que les scènes récurrentes qui se manifestent, se dessinent dans ce texte qui est absolument magnifique, c'est celle des statues qui sont parfois mutilées et qui regardent avec leurs yeux blancs la barbarie humaine. Et là, l'art reste encore une fois. Il montre aucun cadavre, Gautier. Hein.
Il montre, vous voulez dire, dans son écriture.
Il ne décrit aucun cadavre, il ne décrit aucune chair détruite, il décrit des statues mutilées. Mais ces statues mutilées ne permettent pas de dire qu'il est absolument indifférent à la misère et à la violence humaine. Effectivement, non, au contraire. Il voit dans les statues une sorte de regard qui est le sien, c'est-à-dire d'élévation au-dessus de la barbarie humaine.
C'est pas mal quand même, image. Les statues mutilées. Enfin, même Hugo, ça lui encore. Juste pour finir là-dessus, Jean-Marc, dites-moi juste si vous trouvez que Hugo peut apprécier ça.
Certainement.
Juste un mot. Alors pour finir, on finit avec John Lennon, Working Class Hero.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be.
Ce mot fuck, employé dans cette chanson de Lennon, a fait scandale à l'époque. Engagement de l'art, désengagement de l'art, peut-être les deux ensemble, c'est ce que nous fait penser aussi cette chanson de John Lennon, Working Class Hero, de 1970. Merci Martine Lavaux et Jean-Marc Kovas. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission. Maintenant, la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il prend pour objet la philosophie en quelques phrases. Voici le pourquoi du comment. «
Pourquoi l'aphorisme est-il un genre philosophique? Le fait que, au-delà du langage en général, qui est l'instrument malgré tout de la philosophie, au-delà des mots, là aussi, pris isolément, pourquoi la phrase, le fait de mêler certains mots dans des phrases qui leur donnent un sens nouveau, qui font apparaître des problèmes, pourquoi est-elle si centrale en philosophie? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a des phrases qui surgissent des livres, qui ont leur vie propre en quelque sorte et qui circulent dans la pensée. Il y a aussi des phrases qu'on met en exergue d'un livre, un peu comme une devise qu'on citait, comme celle de Jean-Jacques Rousseau au début des Confessions. Et puis, il y a aussi cet acte délibéré, un peu différent, qui consiste à délibérément résumer la philosophie dans une phrase ou dans une série de phrases, à écrire, au fond, délibérément, à peser les mots dans des phrases pour résumer toute une pensée d'une manière active, comme un choix, pas seulement comme un effet de hasard de l'écriture, un débordement, ou comme une incitation à aller plus loin, ou bien comme un effet de l'histoire rétrospective qui va extraire une phrase comme « je pense, donc je suis » de Descartes, qui d'ailleurs, il n'a jamais écrite comme cela en français, mais elle a eu sa vie propre ensuite. Il y a autre chose. Il y a des philosophes qui écrivent délibérément des phrases isolées pour produire un effet global. C'est cela qu'on appelle un aphorisme. Un aphorisme, c'est la phrase isolée comme genre en soi. Ce n'est pas « je pense donc je suis » que Descartes n'a jamais écrit comme un aphorisme. On peut se demander d'ailleurs si certaines phrases isolées ou certains penseurs dont on pense qu'ils ont pratiqué cet éclat de la pensée en aphorisme séparé, s'ils l'ont vraiment pratiqué délibérément ou bien si ça n'est pas un effet de la transmission éclatée de leur texte. Parménide n'a jamais écrit simplement « l'être est » et le non-être n'est pas. Héraclite n'a peut-être jamais écrit non plus simplement « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Ce sont des phrases qui ont marqué toute l'histoire de la pensée, ce sont devenus pour nous des aphorismes, mais c'est aussi l'effet de la perte de leur contexte, même s'il y a une grande part du poème de Parménide qui a survécu. Il y a aussi dans les pensées de Pascal cet immense mystère de savoir s'il les a écrites délibérément de manière isolée ou bien si, comme le pense par exemple Emmanuel Martineau, on peut reconstituer un discours de Pascal qu'il aurait ensuite découpé en fragments, en aphorismes séparés, avec cet effet extraordinaire parfois en deux, trois mots, par exemple... le pouvoir, le tribun, c'est la toge. Voilà, la toge, c'est l'essence du pouvoir, de la cité mâle, ou bien quelques pensées très célèbres comme celle-ci sur la crainte de Dieu. Si tu crains, ne crains pas, mais si tu ne crains pas, crains. L'aphorisme délibéré, il est assez rare au fond. Il y en a des exemples chez Nietzsche qui a écrit délibérément par fragments et par aphorismes. Il y a aussi cet aphorisme qui nous parvient et que je ne peut pas ne pas citer ici, de Bergson sur la vie et sur la mort, qu'il a écrit séparément, mystérieusement, dès qu'on aime ce qu'il y a de meilleur dans la vie, on devient indifférent à la mort. L'aphorisme, l'existence de l'aphorisme, délibéré chez certains et peut-être parfois chez tous, et aussi suscité par l'extraction de phrases, par l'histoire ou par la citation et par le geste des humains pour résumer une philosophie, l'aphorisme est en tout cas un genre philosophique à part entière, parce que nous avons besoin d'emporter avec nous ces concentrés d'expériences humaines que sont les phrases inoubliables de la philosophie.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Clara Galivelle. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!